Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous apprendra ou vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers 1895. Je vous rappellerai aussi, bon ça je ne le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps c'est bien, que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle de Diamant sur canapé. Un petit bijou, 1962, Blake Edwards est à la réalisation, Audrey Byrne et George Pippard sont devant l'écran, enfin plutôt devant dans le cinéma, et c'est Henry Mancini, notre chéri Henry Mancini, qui est à la baguette de ce Moon River. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un réalisateur français né en 1920 en Turquie et mort à Bagnolet, beaucoup plus banalement, en 2002, donc il n'y a pas si longtemps, le dénommé Henri Verneuil, de son vrai nom Harold Malakian, plutôt Hachon Malakian, pardonnez-moi, sans doute aurez-vous reconnu un nom d'origine arménienne, et c'est bien de cela dont il s'agit, puisque Hachon Malakian était né en Turquie, qu'il a dû quitter en 1924, après le génocide qui avait eu lieu quelques années avant, perpétré, même s'ils ne l'ont toujours pas reconnu, par les Turcs à l'égard de la communauté arménienne. En 1924, Henri Verneuil, qui n'est pas encore Henri Verneuil, débarque avec ses parents à Marseille, à La Joliette, et il racontera beaucoup, beaucoup plus tard, à la fois dans un livre, Mayrig, qui veut dire maman en arménien, je vous l'apprends, et dans deux films, Mayrig et 588 rue de Paradis, il racontera son enfance destinée eh bien, à s'intégrer dans la vie française, ce qu'il fera magnifiquement, puisque dès les années 40, en tout cas pendant la Seconde Guerre, il est journaliste à Paris, et à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je vais y arriver, il commence à tourner, il fait la rencontre de Fernandel, qui sera l'interprète d'un certain nombre de ses films. On va passer sur ses premiers films, juste en les citant, L'ennemi public numéro 1, Le mouton à cinq pattes, Le boulanger de Valorgue, etc., etc., pour écouter ensuite des musiques de films peut-être plus intéressantes que celles des films cités. Et on va écouter tout de suite, et après on en parlera, car j'ai déjà été assez bavard, un extrait d'un film qui en 1959 entrera carrément dans le patrimoine du cinéma français. Le film, sans doute vous l'avez déjà vu, il s'appelle La vache et le prisonnier, bien sûr. Fernandel en est l'interprète principal. La musique, elle est signée de Paul Durand et on en écoute un petit extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
un bien court extrait de la musique d'un film qui fut un succès colossal. Alors, à la fois en 1959, quand il est sorti sur les écrans, et depuis, en tout cas, maintenant, on ne voit plus à la télé, évidemment, on ne voit plus que des gros films américains stupides à la télé, mais pendant longtemps, eh bien, La Vache et le Prisonnier, ça faisait partie du patrimoine cinématographique français. L'histoire, elle est bien connue, c'est celle de Charles Bailly, un prisonnier de guerre français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'évade, presque entre guillemets, s'évade avec une vache. Évidemment, personne ne pense qu'un homme avec une vache peut être un prisonnier en fuite. Et à la fin du film, bon, je vous le spoilie, mais vous l'avez sans doute déjà vu, il croit fuir vers la France, mais en fait, il retourne vers l'Allemagne, de laquelle il ne sera libéré que 2 ans plus tard. Alors, petite anecdote aussi intéressante, c'est qu'à la même époque qu'Henri Verneuil et Fernandel, eh bien, Claude Autant-Lara avait pensé à un scénario un peu comparable avec Bourvil dans le rôle principal. Peut-être qu'on aurait pu voir La Vache et le Prisonnier avec Bourvil. C'est un tribunal même qui départagea les hommes et donc attribua le scénario à Henri Janson, qui était un des scénaristes réputés des années 60, pour en faire eh bien, le succès que l'on connaît. Fernandel, donc, je vous l'ai dit, c'était un pays aussi d'Henri Verneuil, finalement. Ils étaient tous les deux marseillais. Fernandel aura beaucoup compté dans la carrière de Verneuil. C'est lui qui lui aura permis de faire en 1952 son premier film, La Table aux Crevés. Et ensuite, ils tourneront 7 films ensemble, ce qui n'est quand même pas rien. Mais dans ces années 50, un peu avant La Vache et le Prisonnier, Henri Verneuil avait fait une autre rencontre décisive en 1955, dans un film un peu oublié, mais plutôt bienvenu, façon néo-réaliste, même si le terme est un bien grand mot, Des gens sans importance, et bien qu'il voyait en vedette Jean Gabin lui-même. Jean Gabin qui sera là encore un des interprètes privilégiés d'Henri Verneuil. On va avoir l'occasion à plusieurs reprises d'y revenir. On va écouter un extrait d'un autre grand classique du cinéma français. Finalement, Henri Verneuil aura vraiment marqué son époque. Un film, alors lui qui est cultissime pour le coup, un film tourné en 1962 d'après un roman d'Antoine Blondin avec des dialogues de Michel Audiard. Dans les rôles principaux, il y a Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, ça s'appelle « Un singe en hiver ». La musique, elle est de notre cher Michel Magne. Et on en écoute un extrait, lui aussi cultissime, dans 24 notes secondes. Thank you. La musique de Michel Magne pour l'unique rencontre, aussi étonnant que ça paraisse, de Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo à l'écran, Un singe en hiver, un film d'Henri Verneuil tourné en 1962, une adaptation de François Boyer d'un roman d'Antoine Blondin. Sur ma petite fiche, je vois qu'à l'époque, le ministère de la Santé craignait que le film soit une apologie de l'alcool. Ma foi, ça y ressemble quand même un tout petit peu à une apologie de l'alcool, puisqu'on voit Jean Gabin qui joue un ancien quartier maître du corps expéditionnaire en Chine, d'où d'ailleurs les accents exotiques de la musique de Michel Magne, et qui avait promis à la libération de ne plus boire, et bien replonger en compagnie de Jean-Paul Belmondo, alias Gabriel Fouquet, ce qui nous vaut quelques scènes d'anthologie, mais qui ressemble quand même vaguement à l'alcool, c'est bien, parce que ça fait rire, et du coup on est désinhibé, après on en pense ce qu'on en voudra. Par contre, cette unique rencontre, et bien elle est magistrale, et le film est maintenant resté dans les mémoires cultissimes à la manière des tontons flingueurs, si on permet cette approximation, avec visite sur les lieux de tournage, pèlerinage, etc., etc. Signalons aussi qu'aux côtés de Gabin et Belmondo, il y avait quand même la fine fleur des grands seconds rôles de l'époque, Suzanne Flon, Noël Roquevert, Paul Francoeur, Gabriel Dorzia, des noms qui ne vous disent plus rien, mais qui à l'époque comptaient, notamment pour Henri Verneuil, qui a été beaucoup opposé aux tenants de la Nouvelle Vague, puisque certes, la Nouvelle Vague, qui dans les années 60, eh bien, florissait, mais qui évidemment avait des façons de tourner très très différentes du cinéma de papa, comme on a qualifié parfois le cinéma d'Henri Verneuil. Signalons quand même que Jean-Paul Belmondo, ben, c'est un pur produit de la Nouvelle Vague, puisqu'il avait connu son plus grand succès 2 ans auparavant, si je me souviens bien, ou 3, avec À bout de souffle du regretté Jean-Luc Godard. Ensuite, eh bien, après ce grand succès, Henri Verneuil va continuer à les enchaîner, les succès. Alors, il retrouvera à la fois Gabin et cette fois Alain Delon pour Mélodie en sous-sol en 1963. Il retrouvera à nouveau Belmondo pour Week-end à Zuidcote en 1964, qui est une évocation de la tragédie de Dunkerque, qui, à mon avis, vaut largement celle de Christopher Nolan, si on me passe cette provocation. Ensuite, il sera signe de son statut de grand réalisateur à la tête de 2 grosses superproductions américano-mexico, je ne sais trop quoi. La 25e heure en 1967 et la bataille de San Sébastien en 1969. Mais ensuite, il reviendra en France et il tournera des films de classe internationale, si on veut, mais avec quand même une base française et des acteurs français, mesdames et messieurs. Et quoi de plus français que le trio en tête du film dont on va écouter un extrait de la bande originale, Le Clan des Siciliens, tourné en 1969 avec dans les rôles principaux, sur la photo bien connue de gauche à droite, Alain Delon, Jean Gabin qui a un chapeau, parce que c'est Jean Gabin quand même, et Lino Ventura qui a un pistolet. En fait, ils ont tous les trois un pistolet. Ce qu'on oublie quand même, c'est que Lino Ventura, il n'est pas dans le même camp qu'Alain Delon et Jean Gabin dans le film. Le film, il est bien connu, je l'imagine. Lui aussi, il a longtemps fait la joie des téléspectateurs, après avoir fait celle des spectateurs. 5 millions d'entrées quand même en salle. Et surtout, il fait la joie des amateurs de musique de film, puisque c'est l'époque où on pouvait encore se payer Ennio Morricone quand on était un réalisateur français. Et on va écouter un extrait de cette bande originale. Forcément, vous l'avez déjà entendu, mais nous sommes dans 24 notes secondes. Un classique entre les classiques, on ne s'en lasse pas, la bande originale du Clan des Siciliens, signée Ennio Morricone pour un film de Verneuil, Henri, tourné en 1968 avec Gabin, Delon, Ventura dans les rôles principaux. Un petit silence, voilà, que dire de plus avec de pareilles têtes d'affiche. Des gars qui en avaient, ça c'est sûr, je pense que Me Too, ça leur a peut-être pas plu beaucoup. En quoi qu'il faudrait demander son avis à Alain Delon, qui est le seul survivant du trio. Mais en tout cas, c'était l'efficacité à l'américaine pour un cinéma à la française. Ah, cet atterrissage d'avion sur une piste d'autoroute, on ne s'en lasse pas. Bref, encore un très très gros succès pour Henri Verneuil, qui lui permit d'enchaîner, là encore, avec des films effectivement relevant plutôt du cinéma de papa et du pur divertissement, mais qui, ma foi, était fort efficace dans ce genre-là, puisqu'en 1971, on vit le casse, avec à nouveau Jean-Paul Belmondo aux côtés d'Omar Sharif, il me semble, à Athènes, puisque Omar Sharif jouait un grec, c'est bien connu, un égyptien jouait un grec, c'est évident, et là encore une musique d'Ennio Morricone, et on va encore écouter une musique d'Ennio Morricone, en fait, on va en encore écouter deux, mais je vous laisse la surprise de la dernière. On va écouter un petit extrait de la bande originale de Peur sur la ville, un film de Bebel, tourné en 1975. Quand je dis un film de Bebel, c'est que nous sommes dans la grande époque, Jean-Paul Belmondo, où les réalisateurs, si talentueux soient-ils, sont un peu au service de la vedette. Jean-Paul donne tout, évidemment, c'est lui qui fait ses propres cascades, notamment une restée fameuse sur le métro, quelque part à la station Bir Hakeim, mais si vous savez, c'est une station à ciel ouvert. Le film, il faut bien le dire, ne casse pas des briques, mais il y a aux côtés de Jean-Paul Belmondo, Charles Denner, ma foi, plutôt bienvenu. Et puis la musique, elle est d'Ennio Morricone, je vous l'ai déjà dit, dans 24 notes secondes. Si, si, je vous assure, c'est bien Ennio Morricone, mais Ennio Morricone Easy Listening, un extrait de la bande originale de Peur sur la ville, Henri Verneuil, Bébel, 1975. Il ne faut pas oublier qu'Henri Verneuil, Ennio Morricone, il avait débuté dans les arrangements pour les chansons des années 60 italiennes, un peu sirupeuses. Et après, bah, il a fait la carrière que l'on sait, dont nous avons ici quelques extraits et encore un dernier. Avant de finir, 24 notes secondes, consacrées donc à Henri Verneuil, qui curieusement, après des films quand même très très grands public, se tournera ensuite, au moins pour trois films, vers des choses un peu plus exigeantes, puisque en 1976, on verra Le corps de mon ennemi, avec toujours Belmondo, mais dans une histoire politico-bourgeoise un peu satirique, et surtout après, on verra I Comicar, avec Yves Montand, qui est consacré aux fameuses expériences sur la soumission à l'autorité de Stanley Milgram, bon, expériences qui sont aujourd'hui bien contestées, mais où on voit qu'on peut faire obéir n'importe qui pour faire à peu près n'importe quoi. Ensuite, on verra 1000 milliards de dollars en 82 avec Patrick Devers, consacré au flux financier. Et ma foi, je pense que ce film-là, et je ne plaisante pas, eh bien, on pourrait le revoir 40 ans plus tard et ce sera à peu près pareil. Sauf que c'est plus 1000 milliards de dollars, maintenant c'est peut-être 100 000 milliards de dollars ou que sais-je encore. Et enfin, eh bien, Henri Verneuil finira sa carrière sur trois films très différents. D'abord en 1984, Les Morphalous, qui verra sa dernière collaboration avec Jean-Paul Belmondo pour une histoire, alors vraiment de garçon, mais de garçon un peu lourd. Et puis surtout, et je l'ai déjà évoqué au début de cette émission, et on va donc boucler la boucle, je ne sais plus exactement en quelle année, mais dans les années 95, eh bien, Henri Verneuil portera à l'écran ses mémoires, Mayrig, déjà évoqué, c'est-à-dire eh bien, son arrivée à Marseille, et puis aussi il évoquera de façon très très crue le génocide, en fait, dont ont été victimes la communauté arménienne en Turquie à partir de 1915, et donc il fera deux films avec Claudia Cardinale dans le rôle de sa mère, et Omar Sharif à nouveau, bah Omar Sharif, hein, s'il est égyptien, il peut aussi jouer un Arménien, bien sûr, dans le rôle de son père. Mayrig sera un film plutôt réussi, même si un peu larmoyant. Par contre, on sera plus circonspect sur le dernier film, en fait, d'Henri Verneuil, 588 rue de Paradis. Alors la rue de Paradis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une rue à Marseille, elle monte jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Et c'est là qu'habitait en fait la famille d'Henri Verneuil. Et dans ce film, eh bien, Henri Verneuil raconte sa propre ascension de journaliste. C'est Richard Berry qui joue son rôle et on peut considérer que ce n'est peut-être pas son meilleur film. Ensuite, eh bien, ma foi, il entrera à l'Académie des Beaux-Arts, il sera institutionnalisé et il nous quittera le 11 janvier 2002 après une carrière, ma foi, bien remplie, puisqu'il aura donné notamment à Delon et à Gabin et à Fernandel, bien sûr, quelques-uns de ses meilleurs rôles. Et on va se quitter avec un film, là encore, français mais de classe internationale, tourné en 1973, donc petit retour en arrière. Le film, il s'appelle Le Serpent. C'est une histoire d'espionnage avec Yul Brynner dans le rôle d'un colonel russe duplice, mais colonel russe duplice, c'est un pléonasme, hein, avec à ses côtés, et après j'arrête de parler, Henri Fonda, Dirk Bogarde, Philippe Noir et le regretté Michel Bouquet et quelques autres. Bref, là encore, que du lourd. Et à la musique, évidemment que du lourd. Ennio Morricone dans la dernière fois, dans 24 notes secondes. Pardon, Ennio. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Arrivederci.